France Inter.
La dating fatigue, c'est le déjà vu et de plus trop savoir pourquoi on est là. Effectivement, est-ce qu'on cherche à rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'on cherche à se divertir? Est-ce qu'on est juste là parce qu'on se sent seul? Et est-ce que c'est vraiment une façon de ne pas se sentir seul? Je suis pas très sûre en fait.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Une heure pour décrypter, vous savez, une expression, un phénomène dans l'air du temps. Aujourd'hui, un phénomène que je qualifierais de juste retour de bâton frappant des gens qui n'ont pas suivi les sages recommandations de la Bible. Et pourtant assez clair, des gens qui se sont écartés du droit chemin tracé par Jésus-Christ, notre Seigneur, et se sont perdus, brebis égarés en route sur les sentiers diaboliques du stupre et de la gaudriole à but non reproductif. Vous l'aurez compris, du moins si vous êtes un fidèle téléspectateur de CNews, nous allons zoomer aujourd'hui sur ces gens qui abusent des applis de rencontre. Il y aura évidemment le témoignage très fort de Manon M. 1676 matchs en deux semaines à l'été 2021.
J'allais dire plus, mais non, ça va.
Et une greffe de peau au pouce qui n'était plus qu'un moignon à force d'avoir été utilisée pour swiper. Manon M, qui étant aujourd'hui en couple, ayant officiellement en tout cas désinstallé Bumble, souhaite garder l'anonymat.
Officieusement aussi.
Et elle peut être rassurée. Avec moi, son secret est bien gardé. Alors, qu'est-ce que la dating fatigue, ce syndrome qui frappe ceux qui passent trop de temps sur les applis de rencontre? Comment ce qui, à la base, devait nous faciliter la vie est-il devenu une addiction, impactant notre santé mentale? Faut-il désinstaller Tinder? Et surtout, et ça je le dis amicalement à l'actuel conjoint de Manon M, s'il nous écoute, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite différence entre désinstaller Tinder et supprimer totalement Tinder? Je dis ça, je dis rien. Zoom Zoom Zen, marre des applis de rencontre, c'est parti.
Vous êtes horrible.
Zoom Zoom Zen.
Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Eliette Abécassis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Inter.
Merci
cet après-midi.
À vous.
Eliette, vous êtes romancière, scénariste, autrice d'une vingtaine de livres, parmi lesquels, pour citer ceux qui font écho à notre thème du jour, Nos rendez-vous en 2020, Instagrammable également en 2021, et le petit dernier, Un couple en 2023, publiés tous chez Grasset, une fidélité dont devrait s'inspirer Manon M, que je vais vous présenter. Mais je signale aussi, parce que ça m'a surpris, je ne savais pas, vous êtes aussi parolière, vous avez écrit par exemple pour Enrico Macias.
Absolument, et pour le groupe de rock Debout sur le Zinc.
Comment ça s'est fait?
J'écris des romans, des paroles, c'est peut-être pas si loin que ça. Je fais pas la musique.
Hein. Mais concrètement, genre Enrico, il vous a appelé, vous avez dit, il dit j'aime vos romans, écrivez-moi une chanson.
Ouais. Il m'a donné le thème, c'était pour un de ses albums et c'était sur le thème Séfarade.
Et donc vous étiez légitime.
Et j'étais ravie. Et je peux vous dire que Enrico, quand il joue de la guitare et qu'il chante, il est, mais alors, irrésistible, quoi.
Ah ça, j'ai eu la chance de le croiser aussi dans le sud de la France. Et il est très bon au backgammon aussi. Enfin bref. Alors Eliette, vous allez nous expliquer comment vous interprétez cette dating fatigue, cette lassitude qu'on a des applis de rencontre. Juste le temps de vous présenter ceux dont je ne suis pas prêt de me lasser. En même temps, comme Marie est là depuis hier seulement, ça serait vraiment prématuré comme lassitude. Marie Cahu, Manon Mariani, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Oui, je me suis dit deux femmes, soyons modernes, mettons la musique de Drôle de Dame.
Oh là là,
à toute la Gen Z qui nous écoute en masse l'après-midi. Marie, c'est vous, en cette fin de semaine, qui avez la lourde mission de remplacer Quentin Lhuy dans l'exercice du micro-trottoir. On peut le dire, hier, votre première a été un succès. Beaucoup de retours enthousiastes, voire dithyrambiques. Super Marie, tu déchires, mais où as-tu trouvé des passants aussi charismatiques? Quentin, c'est pas la peine de revenir. Bref, un succès. Mais on va pas tous les lire, c'est fastidieux. Attention à ne pas vous relâcher pour votre deuxième complètement à la rue. Marie, racontez-nous, les gens, ils sont vraiment fatigués à l'heure des applis de rencontre?
Oui, et moi aussi, parce que ce moment d'enquête a été intense. Je partais conquérante. La dating fatigue, moi, ça me connaît. Alors, j'allais pouvoir commisérer, trouver de l'espoir, peut-être même des techniques, qui sait. Bon, en fait, je suis repassée par tous les traumas du dating. Partir à la recherche de personnes disponibles et se prendre des gros fours.
C'est clair.
Passer des bons moments, suivi d'autres ultra cringe. Et je me suis même fait ghoster sur un trottoir. Donc, un condensé de dating fatigue. Mais j'ai quand même chopé des petits tips, vous verrez.
Et voilà quelqu'un qui, à 37 ans, parce qu'on peut dire votre âge, hein, oui. Marie, on le dit à d'autres moments, sait comment prononcer le mot cringe.
N'est-ce pas, Mathieu?
Pas cringe comme moi l'autre jour. À vos côtés, Eliette Abécassis, elle n'a, je tiens à le préciser, aucun lien de près ou de loin avec cette Manon M que j'évoquais tout à l'heure. Les applis de rencontre, ça ne l'a jamais intéressée. Même quand elle était célibataire, elle préférait de loin les bonnes parties de Scrabble.
Évidemment.
Aujourd'hui,
dans le parking de Radio France.
Évidemment. Là, je crois que les gens vont commencer à comprendre à quoi on fait référence.
C'est une blague, évidemment.
Bien sûr, ça, c'est de l'humour. Aujourd'hui, elle goûte aux joies discrètes de la monogamie qui lui laisse le temps pour le cycling et surtout pour consigner dans son petit carnet à retenir de Zoom Zoom Zen toutes les choses qu'on apprend ici chaque après-midi. Elle a déjà noirci 12 pages en 2 ans.
Déjà, ouais.
Manon, surtout, chaque après-midi, vous nous décryptez les tendances qui montent sur les réseaux.
Et aujourd'hui, forcément, qui dit dating fatigue dit application de rencontre, un des sujets phares de ma veille sanitaire quand même. Des applis de plus en plus critiquées, notamment par les femmes qui ne s'y sentent plus en sécurité. Tinder vient donc de lancer une nouvelle fonctionnalité pour essayer de remédier à ce problème. Est-ce que ce sera suffisant ? Réponse dans ma veille sanitaire.
Vers 16h30 après, la dating fatigue, le dating burn-out. Le Zoom Zoom Test nous entraînera à la découverte des applis de rencontre les plus chelous ou quand l'hyper-spécialisation finit par tuer l'amour. En fin d'émission, c'est Marie De Breuer qui viendra nous dire si les applis la fatiguent aussi. Mais d'abord, pourquoi pas commencer par une petite question presque philosophique. Eliette Abécassis, est-ce qu'à vos yeux, déjà, toutes ces applications de rencontre, le fait qu'elles soient rentrées comme ça dans nos vies, est-ce que ça nous a forcé à réinventer la notion du couple, de l'engagement ?
Oui, je pense que c'est un vrai changement de mœurs, même de paradigme amoureux. Quelque chose qui n'a probablement jamais eu lieu depuis Platon, parce que Platon, avec sa théorie, sa fameuse allégorie de l'amour fusion, c'est-à-dire le mythe de l'androgyne, le fait que dans l'amour et par l'amour, on cherche à rencontrer notre moitié. Mmh. Notre moitié, ça veut dire que nous ne sommes
pas complets.
Exactement.
Et aujourd'hui, on s'en fout. On n'était pas complet.
C'est là où est vraiment le changement. C'est-à-dire que l'idée platonicienne, c'est que on ne peut pas être soi-même si on n'a pas rencontré notre moitié. Et donc, on ne peut pas être heureux puisqu'on ne peut pas être soi-même, d'accord ? Et tout l'Occident se déroule sur ce paradigme avec l'amour, la passion, etc. Et puis tous les, évidemment, Tristan et Isolde, Roméo et Juliette. Et là, nous avons cette idée, effectivement. Alors, il y a le développement personnel qui, dans nos esprits, nous dit ton bonheur dépend de toi-même et surtout pas de l'autre moitié. C'est lui faire peser trop, c'est faire peser à l'autre trop de poids et c'est te rendre malheureux puisque tu rencontreras finalement jamais ta moitié absolue. Et donc, effectivement, avec cette rationalisation de l'amour, on a un changement de mœurs complet, effectivement.
Cette émission est encore plus importante qu'on ne pouvait l'imaginer avant. Face à vous, Eliette, lui, il a connu le temps béni des annonces matrimoniales. Bellâtre Seine-et-Marne, ancien garde du corps de Bill Clinton, fondateur de l'éphémère chaîne de vidéoclub Vidéo Avenir, placé en faillite pour des raisons politiques, cherche gente dame ayant une forte tolérance à la bougonnerie. À l'époque, c'est sûr, on risquait pas de tomber dans l'adduction. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël.
Alors Cyril, quand vous avez découvert qu'en 2024, ce n'était plus via les petites annonces du chasseur français qu'on trouvait l'amour...
Union. Non, union.
Ça, c'est un autre type de... C'est pas l'amour qu'on cherche dans le magazine.
Non.
Très bien. Vous êtes mis à jour et vous êtes en mesure de nous dire la dating fatigue, d'où ça sort ?
De beaucoup, beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez, cher Mathieu Noël. Alors, je dis beaucoup, mais finalement, pas si beaucoup. En fait, dès 2016, on a commencé à parler de dating fatigue. Je dis on, mais surtout un article. The Rise of Dating App Fatigue, l'avènement de la fatigue des applications de rencontres. C'est un article publié sur le site de The Atlantic le 16 octobre 2016. 2016, je le rappelle, c'est seulement 4 ans après la naissance de Tinder et c'est un an après son entrée en bourse. Et pourtant, dès cette époque, The Atlantic écrit ceci. Les services tels que Tinder et Hinge ne sont plus de jolis nouveaux jouets brillants. Certains utilisateurs commencent à les trouver plus frustrants qu'amusants. Et puis après, eh bien, plus rien ou presque. La fatigue s'est envolée et les gens se sont mis à matcher comme des malades.
Et c'est ici, en France, que le mot réapparaît.
Absolument. Et on le doit à la journaliste française Judith Duportail. En mai 2021, elle publie « Dating, fatigue, amour et solitude dans les années 20 ». 2 ans après avoir désossé les entrailles de Tinder pour son livre « L'amour sous algorithme », livre où elle révèle que l'application de rencontre colle des notes de désirabilité à ses utilisateurs, Judith Duportail remet le couvert. Cette fois plus de notes, mais de l'ennui. Comment ce trop-plein de rencontres et cet océan de possibilités a fini par nous isoler ? Un comble. En tout cas, avec ce livre, la journaliste française met l'expression « dating fatigue » au goût du jour, expression qui sera reprise ensuite un peu partout en France comme à l'étranger, jusqu'à devenir une émission sur France Inter, un vendredi de mai 2024, 3 ans après le livre, et pas à dire on est chaud sur l'actu. Alors, est-ce que cette dating fatigue est terminée ou est-ce que l'épuisement se prolonge ? Comment éviter d'y laisser ses jours, ses nuits et in fine sa santé ? Qu'est-ce que cette dating fatigue dit de nos rencontres amoureuses actuelles ? Comment se rencontrer à l'heure du smartphone roi ? 3 et mythique, en fait. On en est où ?
C'est fini.
C'est ce qu'on va voir quand même durant une heure.
Merci Cyril, je me permets de vous préciser, je sais que vous avez hâte qu'on soit en vacances, je sais que vous avez hâte qu'on soit plus loin de la saison, mais avec cette émission, on est encore en avril. Hein,
exact.
Voilà, donc c'est important de le signaler quand même. On n'a pas fait un saut dans le temps. Merci Cyril. Eliott Abécassis, quand on parle de dating fatigue, on parle de fatigue physique ou surtout de fatigue psychologique ?
Je pense que c'est plus psychologique que physique, quoi, parce que c'est
bah,
souvent, on cherche souvent dans le périmètre, on n'a pas beaucoup à marcher. Donc non, c'est une fatigue psychologique du fait de, je pense, d'avoir à chercher sans cesse, à rationaliser sa recherche et chercher selon certains critères qui fait qu'on est sans cesse. Ça devient en fait, la recherche devient intellectuelle. Alors que je dirais avant, dans l'ancien paradigme, ça nous tombait dessus, c'était voilà, le coup de foudre, la rencontre, le hasard. Ah. Et je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, je ne suis pas en train de dire ça, j'observe juste le changement. Ce n'est pas forcément moins bien que cet amour-passion qui nous rendait très malheureux et qui nous faisait souffrir.
Mais est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas un peu la même chose ? Quand on allait dans un bar, on choisissait le quartier dans lequel on allait, dans tel bar, parce qu'on savait qu'on allait y croiser tel type de personnes, on réfléchissait aussi un petit peu.
Non, mais ce qui est fatigant, je pense que c'est vraiment ce qui est la caractéristique de la modernité, c'est la multitude. C'est-à-dire, quand on allait dans un bar, bon, ben voilà, il y avait, je sais pas, 30 personnes,
mais en fait,
et un autre bar. Mais là, c'est waouh, la ville entière, le monde entier, peut-être.
Les applis de rencontre nous font-elles plus de mal que de bien ? On continue d'en parler juste après. Non pas Enrico Macias, Eliott, j'aurais adoré, mais Billie Eilish, qui est un peu l'Enrico Macias de la Gen Z. Voici Bad Guy sur France Inter. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Sur France Inter.
Elle a écrit sur les liaisons dangereuses à l'ère d'Instagram. Eliott Abécassis est avec nous cet après-midi pour zoomer sur ce phénomène qu'on appelle la dating fatigue, ou quand trop d'applis de rencontre tuent l'appli de rencontre. Une personne sur quatre a déjà utilisé une appli. 75 millions de personnes dans le monde utilisent Tinder, rien que cette appli-là. J'allais vous demander pourquoi, malgré le succès de ces applis, certaines personnes s'en lassent. En fait, j'ai plutôt envie de vous demander, est-ce que c'est possible, d'après vous, de ne pas se lasser ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur les applis qui ne s'en lassent pas ?
Oui, je pense qu'on peut très bien ne pas s'enlacer et puis rester effectivement des mois, des années et même toute la vie quand on a envie de recommencer sans cesse ce frisson de la première rencontre. Puisque ce frisson, c'est ce qui nous fait... c'est le désir en fait. Et ce désir, eh bien, il est sans cesse, il a besoin de nouveautés. Donc on peut tout à fait comprendre cette logique de rester et de ne pas être fatigué.
Au début de l'émission, En blaguant, je faisais référence à Jésus-Christ, tout ça, genre que c'était pas bien de multiplier les rencontres. Évidemment, c'était une blague, mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité dans ça, au sens où, comme on a ces applis et que ça nous pousse toujours à chercher mieux, et ça nous pousse, ou pas forcément mieux d'ailleurs, juste une autre personne, parce qu'il y aura toujours une autre personne. À un moment, il faut donner la chance à un couple, peut-être,
c'est
ou à une personne.
C'est ça. Alors, c'est ça. C'est que, en fait, on va toujours penser qu'on peut trouver mieux. Mmh. Et Judith Duportail, dans son livre, le montre bien, c'est-à-dire que, à chaque fois, ses partenaires se disaient « Ouais, elle est pas mal,
mais peut-être... » Mais qu'est-ce qui se passe, par
oui,
ailleurs,
ouais. C'est ça, la recherche du mieux. Mais, et c'est là où c'est l'absurdité de cette recherche qui fait qu'on ne cherche pas la personne parfaite et qu'on peut adorer un défaut aussi. Et que c'est peut-être ça, l'amour, justement, dans cet irrationnel, de trouver charmant quelque chose qui ne va pas l'être. Donc, et c'est le problème de la rationalisation. C'est-à-dire là, on va chercher, suivant des critères que l'on met en place soi-même, à partir d'algorithmes qui vont se fonder sur ces critères. Mmh. Donc, quelque part, on va chercher notre idée de l'idéal. Alors
qui, en fait, ne nous correspond peut-être même pas, on ne sait pas.
On ne sait pas, pas forcément. Et justement, ce qu'on cherche dans l'amour, c'est peut-être exactement le contraire de l'idée qu'on se fait de la personne, puisqu'on cherche la rencontre avec l'altérité. Et c'est ça qui est passionnant dans la vie et qui fait le sel et l'intérêt des véritables rencontres.
Mais vous parliez de désir, on parle de rencontres, de relations amoureuses. Est-ce que le problème des applis aussi, c'est qu'elles ont changé notre façon de faire l'amour, qu'on est aussi dans cette hyper-consommation du sexe, en fait, plus que de la rencontre?
Alors oui, alors c'est vrai que Judith Duportail, elle montre effectivement cette espèce de frénésie, d'accumulation même des rendez-vous en première partie, en deuxième partie, en troisième partie de soirée, et peut-être que effectivement ça pousse à cette consommation, mais qui est le propre aussi de la modernité, de tout ce que l'on trouve sur les réseaux. En fait, on est dans un flux et dans une fragmentation et dans une accélération de la vie, qui ne sont pas, en principe, les ingrédients de l'amour. Parce que, justement, c'est exactement le contraire, peut-être, la véritable rencontre amoureuse.
Mais est-ce que le fait d'être confronté à cet océan de possibilités en permanence, ça ne nous renvoie pas à notre propre petitesse, quelque part, au fait qu'on est complètement remplaçable par quelqu'un d'autre? Est-ce que déjà qu'on n'est pas grand-chose, les applis de rencontre nous font sentir qu'on est encore moins que ça, finalement?
Alors, et ça peut nous faire sentir surtout très mal, comme le montre Eva Illouz dans Pourquoi l'amour fait mal et dans toute son étude sociologique de l'amour aujourd'hui. Et effectivement, elle montre que il y a cette amertume qui vient, cette déception, et cette déception qui conduit à une mauvaise estime de soi-même, puisqu'on se sent rejeté, puisqu'on voit que l'autre personne est toujours en recherche, et du coup, en fait, ça insécurise, et finalement, ça crée une véritable dépression de la rencontre amoureuse, au lieu de nous porter très haut.
En revanche, une question qui revient assez souvent, c'est on dit que ça privilégie du coup le physique et que c'est le physique qui passe avant tout, parce qu'on voit effectivement une photo de profil en premier. Bon, après, dans la vie, le physique, il est là aussi. Donc, est-ce que de ce côté-là, ça a vraiment changé les choses ou pas?
Bah, le critère, c'est effectivement, c'est les photos. Alors, les gens s'envoient des photos, et puis après, il y a le choc de la rencontre physique et la déception.
Ça, oui. Beaucoup de déception.
Ouais. Le mot choc parle à Manon.
Non, mais c'est surtout que, en fait, il y a le problème de l'instagrammabilité.
Ah, il y a un peu de promo pour votre livre. Instagrammable, excellent roman.
Mais tout vient de là. C'est qu'avec ces histoires de photos instagrammables, les gens s'attendent à trouver des gens instagrammables. Et d'ailleurs, il y a les adolescentes qui vont se faire des têtes instagrammables. Elles vont voir maintenant les chirurgiens esthétiques pour
demander de ressembler au filtre.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a un changement de critères esthétiques où on a cette, encore une fois, cette idée de la perfection instagrammable, qui fait qu'on est sans cesse à nouveau déçu par la chair, quoi. Donc il faudrait peut-être effectivement retrouver un peu de chair et sortir de cette virtualité complète pour revenir à une véritable rencontre amoureuse. Mais cela ne peut pas aller sans l'enchantement du monde. Là, on est dans un monde vraiment désenchanté par l'algorithme. Trop, on est allé trop loin dans l'algorithme.
Et vous l'avez expérimenté, cette dating fatigue. Marie Cahu est partie vous poser la question au hasard des rues. Alors Marie, je vous connais un peu, je sais que pour vous, la tentation était forte de parler de votre dating fatigue à vous. Je pense qu'il y avait matière à faire un joli podcast en 8 épisodes. Mais in extremis, vous vous êtes souvenu du cahier des charges légué par Quentin Luy, le père du complètement à la rue, interroger les gens.
Et oui, j'ai 37 ans, on l'a dit, et je suis célibataire depuis 37 ans. J'exagère, mais longtemps, quoi. Donc j'aurais vraiment pu faire un exposé de 4 minutes sur moi, mais je suis donc allée sur le trottoir avec un micro.
Oui, c'est mieux.
Et j'ai commencé avec Evelyne, 76 ans.
Si je vous dis dating fatigue, est-ce que vous savez ce que c'est ?
Alors, dating fatigue, j'ai entendu ce mot-là, mais je ne vais pas pouvoir vous répondre.
Je lui explique et elle sort un truc de son sac.
Alors écoutez, alors je vais vous montrer quelque chose. Je ne comprends pas du tout votre langage parce que moi j'en suis restée à... Voilà.
Ça n'est pas un smartphone.
Non, c'est pas un smartphone, voilà.
C'est pas un smartphone, c'est un téléphone mobile aux énormes touches. Evelyne, elle n'aime pas Internet et l'amour, elle ne le cherche plus depuis qu'elle a perdu son mari, il y a 12 ans. Après ça, je suis un peu émue, mais je rencontre vite Jeanne, 31 ans, et ça lui parle, la dating fatigue.
Au début, on entre dans une sorte de supermarché, et en fait, on réalise que déjà, il y a plein de produits qui se ressemblent, il y a plein de produits périmés, et en fait, on commence à faire des dates qui sont un peu tout le temps les mêmes, on dissocie pendant un date, on se dit « Ah tiens, j'ai déjà eu cette conversation il y a 2 semaines, et je re-raconte ma vie, et combien j'ai de frères et sœurs, d'où je viens, et où est-ce que j'ai grandi. » Et donc, c'est le sentiment de déjà-vu pour moi, la dating fatigue. Sachant que tous les dates sont toujours un peu fun, hein, mais c'est plutôt le volume et de plus trop savoir pourquoi on est là. Effectivement, est-ce qu'on cherche à rencontrer quelqu'un ? Est-ce qu'on cherche à se divertir ? Est-ce qu'on est juste là parce qu'on se sent seul ? Et est-ce que c'est vraiment une façon de ne pas se sentir seul ? Je suis pas très sûre, en fait.
Je commence un peu à déprimer et Jeanne en rajoute.
Et le côté infini, quête infinie et un peu sans but que tout le monde mène en parallèle. Et du coup, il y a un côté, en fait, à quoi bon ?
Après ça, j'ai le vertige un peu. Ma quête à moi a-t-elle une fin ? À quoi bon, vraiment ? Parce que là, j'enchaîne les fours. Impossible de trouver un homme qui va sur les applis. Tous, ils me répondent la même chose que ce beau jeune homme roux que j'arrête au sortir de chez lui et qui doit deviner ce que ça veut dire.
Pas grand-chose. Dating fatigue ?
Ouais.
Marre de dater, du coup, j'imagine ?
C'est pas trop son truc, blabla. Il fait un peu des mystères. Et puis, il finit par lâcher.
Parce que j'en ai pas trop eu besoin.
Ok. Ouais. Tout simplement.
Non, ouais.
Vous êtes humble, vous voulez pas le dire direct.
Non, oui.
Ok, d'accord. Bon, bah, tant mieux. Ouais. Bravo. Merci.
Je commence à manquer de tenue. Et puis, miracle, alors que j'allais baisser les bras, Antoine.
Bah, c'est mon quotidien. C'est la fatigue de dater. Non, mais oui, c'est vrai que vu que je suis célibataire, je me suis inscrit sur l'application de dating. Et ça provoque très vite une sensation de fatigue, de lassitude, parce que c'est très chronophage.
Je lui demande comment il gère cette fatigue et cette lassitude.
Bah, je fais des pauses, j'y vais 2 semaines, 1 mois, et puis après j'arrête 2 mois ou 1 mois, puis j'y reviens, voilà. Je fais des va-et-vient.
Des va-et-vient, donc. Et puis, dernière rencontre, Émilie. Dating fatiguée après une fois seulement sur les applis. Alors maintenant ?
Bah, je suis célibataire et puis bah, j'espère rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, ouais. Voilà.
Mais vous faites pas une recherche active ou...
Non, là, plus maintenant, là, je... Non, bah, j'ai mon chien.
Et voilà, c'est peut-être ça la solution. Waf.
Jamais personne n'avait osé conclure une rubrique aussi statutaire que le complètement à la rue d'un waf. C'est ça la touche Marie Cahu. Eliette, est-ce que le fait que Marie peine à trouver des hommes touchés par cette dating fatigue, c'est parce qu'ils sont moins touchés par ce phénomène, vraiment ? Où est-ce qu'il mente ?
Alors, oui, la sociologue Eva Illouz dit que vraiment il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes dans le rapport aux réseaux sociaux et que les hommes, non, ça les fatigue pas du tout. Ils sont peut-être moins éduqués d'une façon peut-être encore moins sentimentale que les femmes qui attendent toujours l'amour, c'est ce qu'elle dit, alors que les hommes cherchent la multiplicité des rencontres amoureuses parce qu'ils sont éduqués ainsi.
Pardon, mais j'ai une hypothèse un peu plus prosaïque. Oui. Les hommes, ils ont 2 matchs par semaine en moyenne et les femmes, elles en ont 50. Donc peut-être qu'elles ont plus de tri, elles ont plus de travail à faire puisqu'elles sont plus sollicitées finalement.
Peut-être aussi.
Je vais en parler dans ma chronique tout à l'heure, mais c'est aussi une question, un sentiment de sécurité. Il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas en sécurité sur les applications de rencontre et du coup, elles sont fatiguées aussi de ça, peut-être plus que les hommes. C'est aussi une autre raison, peut-être ?
C'est-à-dire qu'elles se sentent moins en sécurité, elles se sentent en danger ?
Oui, potentiellement, oui.
Ouais. Donc, elles ont plus d'appréhension.
Bah, parce que sur les applications, on peut quand même se faire passer peu pour n'importe qui. L'identité n'est pas forcément quelque chose de vérifié. Donc, au bout d'un moment aussi, aller jusqu'à la rencontre, limite, ça devient quelque chose un peu... Enfin voilà, de sacré, en fait.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une désacralisation totale de la rencontre et cette hyper-rationalisation. Moi, je pense que ce qui est vraiment fatigant psychologiquement, c'est l'accumulation rationnelle. C'est-à-dire, là, ça devient un travail, quoi. C'est-à-dire, il faut y aller, et on regarde. Et donc, en fait, c'est cette accélération dont parle le sociologue Hartmut Rosa qui fait que toute notre vie va être une succession de choix du matin au soir et ça s'inscrit dans cette succession de choix et donc du coup ça sort complètement effectivement d'une sacralisation, ça revient comme faire ses courses et puis après choisir ses films sur Netflix.
C'est,
quoi. C'est entre les deux.
Oui. Marie,
bah, est-ce que ça a quelque chose à voir ce déjà-vu dont parle Jeanne dans le micro-trottoir, l'impression de revivre toujours les mêmes moments à chaque date? Est-ce que ça, c'est juste lié au fait que on les accumule et c'est le nombre? Ou est-ce que aussi les applications, le fait qu'on passe dans un monde virtuel, ça fait qu'on a une plus grande distance avec les gens, qu'on les considère moins réels, que du coup, on peut les ghoster et on peut leur adresser un discours générique, on est moins impliqué dans la rencontre?
Oui, alors vous savez, même la notion même de date... C'est américain. Là, franchement, on a été encore américanisés dans notre culture française. Nous sommes tellement romantiques, franchement. On est romanesque. Et là, on rentre dans le dating system. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai été un an aux États-Unis sur une fac. Et effectivement, j'ai découvert le dating system. C'est très systématique. C'est comme un rendez-vous d'embauche. Donc, quand vous avez une date, vous avez effectivement les questions qu'on vous pose, qui sont toujours les mêmes, et je pense qu'on est vraiment rentré là-dedans. Et moi, je rentrais pas dans ces cas, puisque j'étais française, un peu, voilà, et il me disait « Elliot, you're not straightforward », c'est très grave. C'est-à-dire, en fait, straight, il faut répondre straight aux questions qu'on vous pose, comme quand vous faites une embauche, quoi. Donc, c'est ça aussi, effectivement, qui peut être avec un sentiment de « ça suffit, j'en ai fait assez, j'ai répondu à toutes les questions, faut sortir des sentiers battus ».
On continue de zoomer sur le phénomène de la dating fatigue quand au lieu de nous aider à trouver l'amour, les applis de rencontre nous rendent chèvres. Et si c'était parce qu'elles nous renvoyaient finalement une piètre image de nous-mêmes? On se posera la question avec notre invitée Eliette Abécassis, dont je rappelle le dernier livre, Un couple, qui justement peut être un antidote à la dating fatigue. Le Zoom Zoom Test vous permettra de découvrir qu'il y a désormais des applis de rencontre pour vraiment tous les goûts. Attention, je préfère vous prévenir, comme dirait Manon, c'est cringe. On se retrouve juste après Beyoncé, Bodyguard sur France Inter. So sweet. Kisses in the back seat. I whisper secrets in the backbeat. You make me cry, you make me happy, happy. Leave my lipstick on the cigarette. Just toss it and you stomp it out, out, out. Inhaling whiskey when you kiss my neck. We've been hurting, but it's happy. I'm not afraid to
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
L'écrivaine Eliette Abécassis est notre invitée cet après-midi pour zoomer sur la dating fatigue quand les applis de rencontre se retournent contre nous. Et des applis de rencontre, il y en a beaucoup, peut-être même beaucoup trop, comme nous allons le découvrir dans le Zoom Zoom Test. Marie, comme vous remplacez Quentin, je vous rappelle le concept, hein, vous donnez le meilleur de vous-même pour répondre correctement aux questions, et à la fin, que vous ayez bien répondu ou pas, la régie déclarera la victoire de Manon. On joue donc avec les applis de rencontre les plus bizarres. Vous le savez, dans le monde des applis de rencontre, l'heure est à l'hyper-spécialisation. Il y a des applis pour les plus de 40 ans, pour les plus de 50 ans, pour les plus de 50 ans avec un début de scoliose, la carrière se rencontre. Il y a même cette appli réservée aux stars du showbiz sur laquelle Manon s'était inscrite à une époque, Raya. Le fait même qu'elle ait pu s'inscrire vous donnant une idée du sérieux de la sélection effectuée. Mais il y a tout plein d'autres applis encore plus ciblées, encore plus bizarres, à commencer par The Ugly Bug Bowl.
Oula.
D'après vous, Marie, Manon, à qui vous jouez aussi, Eliette, évidemment, si vous avez envie d'entrer dans le quiz et de les humilier, vous avez le droit. À qui est destiné ce site de rencontre anglais? The Ugly Bug Bowl s'adresse aux personnes pour qui ce n'est pas grave si on n'a qu'un seul testicule, aux personnes pour qui ce n'est pas grave si on ressemble à un insecte,
oh non.
Ou aux personnes pour qui ce n'est pas grave si on est moche.
Oui, trop tard, mais oui, je suis d'accord.
Vous découvrez, Marie, la vivacité.
Marie.
Oui, bravo, Manon. Oui, il suffisait d'y penser.
Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent.
Howard James, un entrepreneur anglais, a créé le site de dating pour les moches et il explique d'une manière peut-être un peu abrupte, mais qui a le mérite de la franchise, je cite « C'est triste, mais la moitié des gens de Grande-Bretagne sont moches. Ça me paraît incroyable que jamais personne n'ait pensé à créer un site de rencontre pour eux avant. » Alors si l'idée semble frapper au coin du bon sens, le succès, lui, ne semble pas vraiment au rendez-vous puisqu'aux dernières nouvelles, on ne comptait que 1500 inscrits. C'est pas énorme.
C'est horrible surtout, c'est-à-dire qu'il faut se considérer moche.
Ah oui, c'est toute une démarche, oui, effectivement. Mais attention, top, enfonçons-nous plus encore dans les entrailles putrides des sites de rencontres chelous. Manon, Marie, je vous ai inscrite, sans vous demander votre avis évidemment, sur une appli un peu particulière. Ici, les descriptions vont de « Bonsoir, j'attends mon prince Vlad », Vlad faisant référence au sanguinaire prince roumain Vlad l'Empaleur, à l'énigmatique « Recherche quelqu'un qui s'amuse de l'horreur et assez ouverte d'esprit pour sortir avec un mec qui possède plus d'un cercueil ». Marie, Manon, sur quelle appli vous ai-je inscrite ? Gothic Match, Horror Crush ou Sadic Swipe ?
B. Horror Crush.
Gothic Match pour
Gothic
vous.
Gothic Match.
Vous tentez votre chance
je
sur la.
Je tente ma chance.
C'est
sinon,
une bonne réponse. Oui, bienvenue sur Gothic Match, le site des rencontres entre gothiques, tout simplement. Hein. Je vous ai pris un abonnement d'un an, je me suis dit que vous aimeriez. Mais il y a plus flippant encore. Ça, c'est un site que j'ai découvert grâce à Quentin, lui,
oula,
et ses amitiés dans la sphère complotiste. Depuis qu'il affirme partout haut et fort, vous savez que TikTok nous écoute. Je ne serais pas étonné que Francis Lalanne y matche avec Florian Philippot. D'après vous, quel est ce site de rencontres? Flat Earth Crush, l'appli de rencontre réservée à ceux qui croient que la Terre est plate. Climate Change Hoax Club, l'appli de rencontre réservée à ceux qui croient que le réchauffement climatique est un canular. Ou Uninjected, l'appli de rencontre pour ceux qui ne croient pas au vaccin.
C'est B.
Pardon, alors vous avez dit.
Ouais, c'est Uninjected.
Uninjected.
J'aime bien ce.
Vous
j'aime
pensez qu'il y a des gens qui croient pas au vaccin et après ils se rendent compte qu'ils sont pas vaccinés.
C'est des fous furieux.
Mais ouais. C'était. Mais ouais, exactement. Voilà. Oui, se retrouver sur X ne leur suffisait plus. Ils se sont dit pourquoi pas créer une appli de rencontre pour anti-vax. Ce sont deux entrepreneuses basées à Hawaï qui ont créé Uninjected. C'était un merveilleux nid à fake news, vous l'imaginez. Très vite signalé, l'appli a finalement été supprimée de l'App Store en août 2021. Enfin, attention, rien ne va plus, tout s'accélère pour la dernière phase du quiz. Le vrai faux en rafale. En rafale. Et non pas en rafale. Personne ici n'a besoin de ravalement, mais c'est tous magnifique. Marie, je vous explique pas le principe, vous avez fait des hautes études. Je vous parle d'une appli, vous me dites si elle existe vraiment ou pas. Top. IST Rencontre, le site spécialement conçu pour les personnes vivant avec une maladie sexuellement transmissible.
Oh, vrai. Non, faux.
Et pourquoi vous ne croyez pas en vous comme
mais parce
ça
que, Eliette. Je dirais faux. Non mais c'est vrai. Oh non. Wow.
C'est vrai.
Mais c'est horrible.
C'est vrai, ce site IST Rencontre existe vraiment. Ça m'a beaucoup aidé à un moment de ma vie, m'expliquait Quentin l'autre jour. IPA Rencontre, le site spécialement conçu pour les gens qui aiment la bière IPA.
Oui, vrai. Non.
Mais non, c'est complètement. Enfin, mais maintenant, arrêtez de penser à l'alcool.
Ça va, il y a des gens, il y a des alcooliques partout, ça pourrait être le cas.
Que sur l'IPA, bah, enfin là, ça irait quand même pas. Bon, bref. Rencontre.
Moi, je suis assez avec le vin blanc, tu vois.
C'est faux, évidemment, c'est faux. Rencontrepuceau.com.
Vrai, ça, évidemment.
Non.
Et de le rébaptiser comme ça?
Bah oui, autant l'assumer.
Bonne réponse de Manon Marianne. Ça existe. Le site indique, si vous êtes majeur et puceau, vous trouverez sur ce site des femmes qui savent que ce sera votre première fois, qu'il y aura des maladresses, des actes trop rapides,
oh
et même
non.
peut-être des ratés. Vraie appli donc. Ça m'a beaucoup aidé à un moment de ma vie, m'expliquait Quentin lui l'autre jour. Red Dating, l'appli de rencontre réservée aux roues.
Vrai, oui.
Mais c'est du racisme anti-roux. Non, ça n'existe pas, bien sûr, je suis choqué par ce que vous venez de dire. Mais non, ça n'existe pas. Oui. Enfin, Clown Dating, l'appli de rencontre dédiée aux clowns.
Vrai, oui.
Alors ça vraiment, oui c'est vrai, vous avez raison, un cœur solitaire se cache derrière tout ce maquillage et le nez rouge, nous dit l'interface d'accueil. Victoire de Manon Marianne, désolée Marie, mais
désolée,
elle
Marie.
Est trop forte, elle est trop rapide, elle est trop entraînée aussi.
C'est un sujet que j'ai maîtrisé pendant un certain nombre d'années,
c'est vrai aussi.
N'est-ce pas?
Un couple, c'est le titre de votre dernier roman, Eliette Abécassis. L'amour est souvent au cœur de vos livres. D'ailleurs, vous expliquez que nous sommes passés du mythe de l'androgyne de Platon, vous disiez ça, qui a hanté tout l'Occident, à un autre mythe, celui du développement personnel. Alors, c'est le moment de l'émission, on va parler un peu de développement personnel. En quoi ça a changé notre vision de l'amour? Qu'est-ce que ça a changé?
Les philosophies ou pseudo-philosophies du développement personnel nous expliquent que nous devons nous fonder sur nos propres qualités pour être heureux et qu'il ne faut absolument pas attendre son bonheur d'autrui parce que nous sommes déçus, parce que ça veut dire que nous n'avons pas assez confiance en nous et il faut bâtir absolument cette confiance en soi pour pouvoir être épanoui. On va avoir des gens, effectivement, donc c'est complètement dans la mouvance de cet individualisme de nos sociétés modernes et des jeunes de plus en plus, des gens qui vont, s'ils se disent, bon ben moi, ce qui est important, c'est ma carrière, c'est ma vie, et puis je trouverai quelqu'un. Donc en fait, moi je pense qu'on est passé du fait de rencontrer l'amour de sa vie, son prince, sa princesse, a un partenaire. On va se mettre à chercher un partenaire. Et ce partenaire, ça peut être pour une courte durée, un CDD, un CDI. Non mais c'est vrai, ça va être ça en fait. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Franchement, je ne sais pas. Parce
mais c'est difficile d'avoir un jeu de valeur.
On a en tout cas moins d'attentes. Et on fait reposer juste sur soi-même. On est comme une sorte d'entité. Et puis après, c'est deux partenaires qui vont construire une sorte de petite société, une petite entreprise ensemble. C'est un petit peu ça la vision vers laquelle on tend.
Et ça revient à ce que vous disiez sur la rationalisation de l'amour. Ça veut dire aussi qu'on se laisse moins emporter par l'amour aujourd'hui. On s'abandonne moins à nos passions qu'avant. Mais comment on fait pour ne pas... Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans passé, mais quand on a 16 ans, enfin, on a des passions qu'on ne peut pas contrôler. Quand on a 20 ans, enfin, on se laisse emporter par ces passions. Les jeunes d'aujourd'hui, là, la Gen Z, ils se laissent plus emporter.
Je pense qu'ils se laissent moins emporter. Je pense que c'est. On a des peut-être toujours des pulsions, mais est-ce qu'on a vraiment des passions? Je ne sais pas. Je ne crois pas du tout, comme Eva Illouz ou d'autres sociologues, dans la fin de l'amour. Je pense qu'on est toujours amoureux, on sera toujours amoureux, et puis tant mieux. Mais je crois à la fin. de l'amour passion. C'est-à-dire cette chose qui vous fait souffrir, qui vous emporte, vous pouvez vivre que vous êtes capable de mourir par amour et puis toute votre vie voilà tient à cet amour-là.
Alors il y aura plus de films, il y aura plus de livres alors.
Mais alors c'est l'inverse. Ah. Je pense que c'est parce qu'il y a plus de livres et qu'il y a plus de films sur cet amour passion qu'il y a plus d'amour passion parce que nous sommes influencés par nos propres mythologies. Donc si d'ailleurs il y a beaucoup moins de comédies romantiques malheureusement ou alors c'est des comédies un peu désenchantées comme La La Land parce que justement dans La La Land ils tombent amoureux et finalement chacun suit
attention
sa carrière.
Attention au spoiler si vous nous écoutez.
Et super spoiler, c'est que dans les 5 dernières minutes, on vous fait tout le film de s'ils étaient restés ensemble, ils auraient fait des enfants et puis ils se seraient disputés et puis ils auraient été dans une banlieue pourrie parce qu'ils n'auraient pas fait leur carrière, ils auraient été très malheureux. Donc finalement, il faut mieux suivre sa carrière. C'est ça la comédie romantique de notre époque. Et je pense qu'au contraire, il faut qu'on refasse des mythes, qu'on réenchante un peu la vie parce que vous voyez bien que finalement, ça ne produit que de la fatigue et un manque de sens. C'est ça, en fait, qui est le plus terrible dans cette histoire. C'est le manque de sens que l'on ressent dans tous les secteurs de notre vie, pas seulement de l'amour.
Mais ça va être difficile d'en sortir parce que même si on ressent, si on est nombreux à ressentir cette dating fatigue, on est happé quand même par les applications de rencontres qui cartonnent toujours autant, finalement. On a beau être fatigué, il y a toujours des nouvelles personnes qui s'inscrivent et d'autres qui y restent. Derrière ça, il y a des stratégies marketing, des stratégies qui nous rendent les applis addictives, un processus de gamification avec les notifications qui fait que ça devient un jeu. Et en fait, c'est très difficile quand on tombe, c'est l'enfer du jeu, les applications de rencontre, c'est l'enfer du jeu aussi.
Oui, c'est l'enfer du jeu et l'enfer de l'algorithme qui se radicalise de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle va rendre les algorithmes encore plus performants pour nous donner exactement ce que nous attendons et de façon de plus en plus précise, donc de plus en plus addictive, pour donner à notre esprit ce qu'il veut avoir, exactement comme sur le marché et tout ce qui est marketing, quoi. C'est-à-dire que l'amour devient un segment marketing des réseaux. Et ça, effectivement, c'est un problème. Donc, il faut... j'aime pas la critique de la modernité des réseaux, j'adore ça. Je pense pas qu'il faille rejeter tout ça, mais il faut arriver à détourner ces algorithmes et ces réseaux pour arriver à s'en sortir quand même dans cette modernité qui a plein de... Parce que la chance de ces applis, c'est que ça ouvre plein de possibilités. Et ça, c'est merveilleux d'avoir l'infini des possibles. Et ce qui est dangereux, c'est de se perdre dans cet infini des possibles, quoi.
Vous écoutez France Inter, et même si vous swipez en même temps, on vous est quand même reconnaissant. Dans quelques instants, Marie De Breur nous dira quelle appli a marché pour elle et lesquelles n'ont pas eu les effets escomptés. Mais pour l'heure, je me tourne vers vous, Manon Mariani. Le moment est historique puisque cet après-midi, vous avez presque rendez-vous en terre inconnue. En effet, pour coller à la thématique de notre émission, vous vous êtes mis un mouchoir sur le nez. Vous avez demandé au Père Pitot, votre confesseur habituel, de vous asperger d'eau bénite. Oui, vous avez décidé de regarder Belzébuth droit dans les yeux en nous parlant de Tinder.
Et oui, on le disait, la dating fatigue est l'une des principales conséquences des applications de rencontres qui sont venues pulvériser notre manière de dater. Et de pécho pour le meilleur et pour le pire. Et du côté du pire, il y a beaucoup à dire sur ces applications, en particulier au niveau de leur sécurité, j'en parlais. Selon une étude qui date de 2022 menée par Appen, 8 femmes sur 10 disent se sentir mal à l'aise sur les applications de dating. Beaucoup y dénoncent des comportements toxiques de la part des utilisateurs, des nudes pas demandés, du harcèlement, des faux profils, des escrocs, etc. etc.
Et donc l'application lance une nouvelle fonctionnalité pour enrayer ce phénomène.
Exactement, Tinder vient de lancer Partage ton date. Elle permet aux utilisateurs d'envoyer à leurs amis tous les détails d'un date à venir avec une personne rencontrée sur l'application.
Faut pas l'envoyer à son ex.
Oui, ah ben non, faut pas se lancer. Toutes les infos sont partagées, la localisation, l'heure, le profil de la personne et on peut aussi rajouter des petites notes pour donner encore plus de précision. Et il sera aussi possible d'envoyer ces infos à une personne qui n'a pas de compte Tinder, donc plutôt pratique. On peut même l'envoyer à notre maman si on veut. Elle aura donc aussi accès à toutes ces informations. La seule chose qui change, c'est qu'elle pourra juste voir les photos de profil du date et pas son profil en entier. Bon, c'est déjà pas mal. Cette fonctionnalité sera disponible prochainement dans quasiment tous les pays du monde et Tinder a révélé en avoir eu l'idée après avoir sondé ses utilisateurs. Selon l'entreprise, 51% des célibataires en dessous de 30 ans partagent déjà les détails de leur date à venir avec leurs proches pour éviter les mauvaises surprises.
Mais alors tout ça va dans le bon sens, Manon.
Oui, Tinder veut que ses utilisateurs se sentent plus en sécurité, en particulier les femmes. C'est d'ailleurs une suite logique à ce qu'ils ont déjà mis en place en février dernier. L'application a renforcé sa fonctionnalité de vérification d'identité. Maintenant, quand un utilisateur a un badge bleu, ça veut dire que son profil a été vérifié beaucoup plus minutieusement par Tinder. Pour ça, elle demande une photo de la carte d'identité de la personne ainsi qu'une reconnaissance faciale avec une vidéo comme preuve. L'appli ensuite analyse les deux documents et check aussi l'âge de l'utilisateur. Et ces badges bleus sont un bon système car ils aident à faire le tri pour celles et ceux qui préfèrent être sûrs de l'identité de la personne qu'ils vont rencontrer et éviter évidemment de tomber sur un fake profil. D'ailleurs, ça marche hein, puisque selon l'entreprise, les utilisateurs avec le badge bleu ont vu leur match augmenter de 67%. Ça montre qu'il y a vraiment une demande et que les gens sont plus en confiance. Perso, quand j'étais inscrite sur Tinder, fut un temps très lointain, c'est vrai que je faisais quand même plus confiance aux mecs qui avaient un profil vérifié. Il y en avait quand même très peu. Le problème est que ça reste quelque chose d'optionnel. Si on ne veut pas de profil vérifié avec le badge bleu, bah on n'est pas obligé de passer par tout ce processus. Et du coup, créer un faux profil devient à la portée de tout le monde.
Il faudra donc que ça soit obligatoire pour vous.
Oui, je pense, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a tellement d'histoires glauques qui arrivent à cause de mauvaises rencontres sur ces applications, que ça serait logique hein, que les profils des utilisateurs soient plus vérifiés en amont. Surtout que là, je vous parle de Tinder qui essaie de mettre en place des outils, mais c'est pas le cas des autres. Hein. Bumble, Hinge ou Happn sont encore à la ramasse sur le sujet. Alors les vérifications existent hein, chez elles, mais elles passent par une simple photo à envoyer. C'est tout de même des politiques très laxistes hein, au vu de tous les problèmes que ça engendre, notamment des violences sexuelles. En mars dernier, un homme surnommé le violeur de Tinder a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour avoir agressé sexuellement 15 femmes qu'il avait rencontrées sur les applications de rencontres. En fait, en quelques années, ces applis sont devenues un joyeux bordel. De lieux de rencontres un peu sympas, elles sont passées à des supermarchés du sexe où l'irrespect est devenu le mot d'ordre. Oui, j'y vais fort, mais c'est quand même le cas. C'est aussi pour ça que la Gen Z déserte ces applications. Tinder a peut-être enfin fait son temps, en espérant quand même que celles qui arrivent derrière soient des safe places, enfin les safe places d'ailleurs, que leurs aînés n'ont jamais été.
Merci beaucoup Manon, Eliette Abécassis, ça vous étonne ce que vous entendez sur le fait que la Gen Z délaisse les applis de rencontre ou finalement ça va dans le sens de la dating fatigue dont on parle aujourd'hui?
Franchement, ça me surprend pas parce que cette Gen Z nous critique souvent pour s'être adonnée au réseau et être allée, mais alors sans aucune limite et nous reproche de ne leur avoir pas mis de limite. Et moi, mes enfants me disent, mais nous, nos enfants, on les laissera pas faire comme ce que tu nous as laissé faire. C'est vrai. Donc, je pense qu'ils sont à plein de niveaux beaucoup plus responsables.
Tant mieux. Marie de Breuer est-elle dating fatiguée ou bien dating comblée? On ne va pas tarder à le savoir juste après Delgrès, Walking Alone sur Inter. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone, yeah. Moi qu'à lever le matin, moi qu'à prendre un café en moins. Et je me sens si seul. J'ai tout laissé derrière moi. Je veux pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit le monde est ton pays. Elle m'avait dit tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit ne te retourne pas. Elle m'avait dit je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. Yes, I'm walking alone. Je marche seul. Que le bruit de mes pas. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Descendant dans la villa. Au monde pas qu'à calculer moins. Mon café, 10 affaires moins. Tout seul. Allons moins qu'à penser à. Est-ce vous aussi ou qu'à vivre ça? Est-ce vous aussi ou qu'à sentir toutes ces rêves? Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, le temps fait pas pour moi. Elle m'avait dit, je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. Oh, and I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Je
Yes, I'm walking alone. Oui, je marche seul. Que le bruit de mes pas. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Yeah. Que le bruit de mes pas.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Les applis de rencontre vont-elles finir par nous rendre fous? Pour conclure cette émission sur la dating fatigue, on reçoit la célibataire la plus endurcie d'Île-de-France, Marie Debreuer. Ça va Marie?
Oh, excusez-moi, je suis crevée. La dating fatigue? Mais moi c'est carrément du dating éreinté, dating exténué, dating chaos debout. Si je reçois encore un seul, tu fais quoi dans la vie? C'est simple, je tombe dans le coma. Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Putain, mais vivement que j'ai une page Wikipédia. J'ai tout à répondre à cette question. J'ai 29 ans, je suis inscrite sur les applis de rencontre depuis que j'en ai 18. Et est-ce que j'ai une bague au doigt? Non. Donc c'est un bilan qu'on peut qualifier de pas ouf selon le CNRS. On se pige sur les applis, on se pige à voir les mêmes profils avec les mêmes vannes claquées. On dirait qu'on s'est rencontrés au musée. Non, Thierry, non. La dernière fois que j'ai foutu les pieds dans un musée, c'était une sortie scolaire, donc non. Quand j'ouvre Tinder, j'ai l'impression de traîner qu'avec des quarantenaires qui citent Kaamelott et la Cité de la Peur sur 10 minutes. Simon, t'as un petit bout de patate là, mais passe à autre chose, merde. Et alors, quand je demande un peu de réconfort face à ce célibat de très longue durée, on me dit quoi? Ouais, mais Marie, t'es peut-être un peu exigeante. J'ai daté un mec en sarouel, les gars. Et le sarouel était visible sur les photos. Bien la preuve que j'ai laissé sa chance à tout le monde. Et je vous le dis, ça fait tout drôle, hein, de coucher avec un gars qui, après avoir joui, te fait un petit concert privé de N-Pan.
Oh
et si vous savez pas ce que c'est un... si vous savez pas ce que c'est un N-Pan, c'est que vous traînez pas avec beaucoup de blancs à dread, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Je vous jure, j'ai failli lui faire bouffer ses drapeaux tibétains. Tu es blanc, Pierrick. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas me sortir les bolasses en jetant la capote? Ce mec, je passe la nuit avec. À un moment, je suis allée pisser. J'ai vu un cul de joint posé sur le rebord des chiottes. Le mec avait clairement fait zéro effort. 6 mois après, je le revois, je recouche avec lui, car non, je n'apprends pas de mes erreurs. Eh bien, le cul de joint n'avait pas bougé d'un iota. Il a une relation plus longue avec ce cul de joint qu'avec moi. Donc non, Mélanie, non, je ne suis pas trop exigeante. Mais Marie, tu devrais dater des mecs féministes. Oh là là, mais je veux bien, moi. Mais si je tombe encore sur le profil d'un mec qui se prend en photo en montrant bien qu'il porte du vernis, en tenant un exemplaire de Jouissance Club pour bien qu'on voit que je suis un allié, hein, j'ai grandi avec des femmes et tout, j'ai grave déconstruit ma masculinité toxique, et peut-être même que j'essaierai de te faire jouir. C'est burn-out immédiat. Voilà. Si je voulais dater Émeric Lomprey, j'aurais qu'à traîner plus longtemps dans les couloirs de France Inter. La dernière fois, je suis sur OK Cupid, le Tinder des gros gauchos. Je tombe sur un gars, sa première photo, c'est lui en manifestation féministe avec une pancarte. Le consentement, c'est sexy. Ouais, OK, après j'ai bien réfléchi, hein. C'est pas tant que c'est sexy. C'est que le contraire est illégal, quoi, tu vois. Je l'ai imaginé, Arthur, être là. Moi, quand une femme veut bien que je lui fasse l'amour, j'ai un immense barreau. Je trouve le consentement sexy. Oh oui, c'est sexy, le consentement. Le viol, oh oh oh. Pas mon délire, c'est pas très sexy. Non, ça marche pas sur moi, Arthur. Retourne donc te faire une coupe mulet. Et moi, je retourne à ma dating hibernation.
Merci beaucoup, Marie Debreuer. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Et pour ce qui est des vannes sur la Cité de la Peur, désolé, je me souvenais plus qu'on avait fait un date ensemble. Ça devait être moi. Merci, Eliette Abécassis, de nous avoir aidé à comprendre ce phénomène de la dating fatigue. Je rappelle votre dernier livre, Un couple, l'histoire d'un amour pérenne. Parce que ça existe encore, en tout cas, dans les romans. Merci à tous. Manon Mariani, Cyril Lacarré et bien sûr celle qui a donné un nouveau souffle au Complètement à la rue, Marie Cahut. Merci d'avoir remplacé Quentin en cette fin de semaine. Je vous rappelle votre dernier podcast, Marie et les œufs en neige, où vous vous posez la question: devez-vous à 37 ans faire congeler vos ovocytes avant qu'il ne soit trop tard? Je conseille personnellement l'épisode 3, très émouvant parce que je suis dedans. Merci à toutes celles qui nous permettent de fabriquer cette émission: Amel Caldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Bulou. Merci à Maxime Goudard et Enzo d'Hospital qui étaient à la technique, Ghislain Fontana à la réalisation. Zoom Zoom Zen revient demain en best-of et dès lundi en direct pour zoomer sur une tendance qui semble contre nature à Cyril et qui pourtant existe: la sexualité. Alors rendez-vous lundi et d'ici là, délicieux week-end à l'écoute d'Inter.